Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ce journal s'ouvre par ce ras-le-bol des communautés de l'Ituri regroupées au sein de l'Union des associations culturelles de cette province qui est à l'origine des deux journées villes mortes depuis ce vendredi pour dire non aux tueries dans cette partie du pays. Toujours dans cette édition, nous vous parlons également de cette sensibilisation des autorités du Sud-Kivu qui encourage la population à se faire vacciner contre le Covid-19, surtout lors de cette deuxième phase lancée ce vendredi. Comme invité, en fin de ce journal, vous suivrez Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, après trois jours passés dans le Tanganyika avec le leadership de la MONUSCO. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Billy Van Lutumba est devant ce micro pour la présentation de ce journal. À Ituri, toutes les activités économiques sont paralysées depuis ce vendredi matin au centre-ville de Bunia. C'est à la suite des deux journées de ville morte décrétées par l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI. Cette structure, qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri, s'insurge contre les tueries des civils par des groupes armés qui se poursuivent en cette période de l'état de siège. Martial Kizabiamungu a sillonné la ville de Bunia et il nous décrit la situation dans ce reportage.
Depuis tôt ce vendredi matin, boutiques et magasins n'ont pas ouvert leurs portes le long du boulevard de la Libération et sur l'avenue Ituri où les activités commerciales sont intenses. Les institutions bancaires, les marchés et les stations-service n'ont pas également fonctionné. La circulation sur la route principale a sensiblement diminué. Seules quelques motos, taxis sont visibles, contrairement à un jour normal. Pour les organisateurs, la population a répondu à leur appel pour dénoncer les tueries et massacre des civils en territoire de Djougou et Irumou en cette période exceptionnelle. Janvier Bin Ekwale, président de l'INADI, interpelle les autorités de l'état de siège devant leurs responsabilités.
Seul pendant l'état de siège, nous venons de perdre plus de 1000 morts. Trop, c'est trop et on en a marre aux autorités de l'état de siège qu'ils prennent leurs responsabilités.
Déjà aux petites heures de la soirée de jeudi, par précaution, des responsables des agents roulants s'est bousculés devant les stations-service afin de s'approvisionner à carburant. Dans les marchés également, certaines familles faisaient des provisions de nourriture. Il faut signaler que si certaines écoles ont fonctionné normalement, d'autres par contre ont carrément renvoyé les enfants à la maison. Depuis le centre-ville de Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nous restons dans la même province pour dire que le commissaire divisionnaire Philemon Patience Mouchi Diav, qui est commissaire général adjoint de la police, instruit les agents de police déployés dans cette ville à Bunia au strict respect et à la discipline pour réussir leur mission. C'est celle de protéger la population dans les zones conquises par les FRDC en territoire des Rumo et des Djougou où les groupes armés sont actifs. C'était au cours de la parade organisée ce vendredi matin au stade de Bunia. Le point avec Clarisse Zihindula.
C'est par ce son de fanfare que la parade a commencé et qui a été suivie dans l'inspection de troupes par le commissaire Philemon Yav. D'un temps ferme, il a déclaré, je cite, « La première des choses à laquelle je vous convie, c'est la discipline. » Il a interdit aux policiers le vagabondage, l'ivresse, la débauche et les abus contre la population. Ces principes sont les garanties pour accomplir efficacement leur mission dans cette province en proie à l'insécurité. À cette occasion, il a ensuite rappelé l'ordre de commandement pendant cette période de l'état de siège. Il a présenté toutes les autorités militaires, notamment le gouverneur, le maire et les bourgmestres à ces policiers qui viennent de fouler le sol de l'Ituri pour imposer la paix. Le commissaire divisionnaire a également invité la population à soutenir les efforts de l'état de siège afin que la paix soit effective. Le commissaire patient Philemon Yav.
L'état de siège n'est pas l'affaire des forces armées de la République démocratique du Congo et seule. Non, c'est l'affaire de nous tous. C'est l'affaire de tout le monde. Surtout vous, la population, il est de votre devoir de mettre à disposition des autorités des informations fiables pour que nous traquons l'ennemi et que dans les jours à venir, la paix des braves s'installe ici.
Pour rappel, la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu ont déjà bénéficié d'un renfort considérable des militaires et des policiers depuis le début de l'état des sièges en juin 2021 pour neutraliser les groupes armés. Bunia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Autre nouvelle d'actualité, 39 ménages des déplacés vivent difficilement dans une cité à Beni. Ces derniers sont ceux ayant fui les atrocités, les uns dans le territoire d'Irumu et d'autres dans le territoire de Beni. Ils plaident pour une aide de tout genre pour leur survie. Pendant ce temps, il se prépare en ville de Beni une réunion d'évaluation de la situation des déplacés. Guylaine Kassassia, reportage.
Ces déplacés vivant au site se trouvant dans une concession de la 8e CEPAC en ville de Beni disent être confrontés à plusieurs défis, comme expliquent certains d'entre eux.
Le problème majeur reste le manque de nourriture et le manque de frais pour les soins, pas moyen de scolariser les enfants.
Je n'ai pas d'occupation. Mes enfants ont failli mourir de faim, mais si je trouve d'occupation, je suis prête pour travailler. Nous souffrons beaucoup. Voilà cette poussière que nous donnons aux enfants. Je les pile et demande les tamis chez les voisins. C'est après que j'ai pu en faire une pâte à offrir aux enfants. Je les ramasse au moulin. Ils plaident pour que le gouvernement les vienne en aide. Que le gouvernement nous vienne en aide. Nous vivons dans les noirs ici. Nous n'avons aucun dispositif sanitaire pour les lavages de mains. Et même les toilettes ne sont plus utilisables. On ne sait que faire. Des enfants ayant abandonné l'école passent des journées entières en vagabondant. Une d'eux, 10 ans révolue, s'exprime.
J'étais en troisième année. L'on nous a réfugiés dans les écoles ici localement pour motif qu'on n'a pas besoin de nouveau.
Je regrette de rater les études, mais aussi la faim. Que les autorités congolaises nous aident en nous offrant la nourriture et les frais scolaires.
Entre-temps, le maire de Beni prépare une rencontre avec tous les acteurs humanitaires pour ce vendredi. Objectif, évaluer la situation des déplacés de la ville. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Kapi.
2 semaines presque depuis qu'a commencé la campagne de recouvrement des documents auprès des conducteurs d'engins roulants, le chef de la Direction générale des recettes du Nord Kivu, Antenne de Beni, salue son bon déroulement. Paul Mahamba appelle cependant les récalcitrants à s'acquitter de ses devoirs civiques, car, dit-il, personne n'échappera au contrôle. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Pendant les 12 premiers jours de la première phase, nous y allons étape par étape. Nous avons d'abord commencé à travailler avec les usagers de la route du secteur privé et donc qui ne font pas les commerces rémunérés. Bien sûr, certains sont passés à nos bureaux et se sont acquittés, mais ceux-là qui se sont résignés au paiement, nous sommes en train de les recouvrer par force. Les gens sont en train de circuler, mais malheureusement, nous avons constaté que les engins roulants ne sont pas très très nombreux sur la route comme le recouvrement a commencé. Il y en a qui ont préféré seulement d'égarer leur véhicule à la maison, de peur qu'ils ne soient pas interpellés par la police. Et moi, je dis que ça, ce n'est pas une solution. On ne doit pas se faire souffrir parce qu'on ne veut pas tout simplement payer l'impôt ou la taxe. Et là, nous demandons à tous ceux-là qui ne veulent pas s'acquitter de se précipiter parce que l'année prochaine, pour l'exercice 2022, après le premier trimestre, nous allons faire les mêmes contrôles. Et à ce moment-là, si quelqu'un n'avait pas honoré l'exercice 2021, il sera obligé de payer le double. En tout cas, personne ne va échapper.
Selon la même source, dans moins d'une semaine viendra l'étape des transporteurs rémunérés. Pour rappel, cette campagne de bouclage forcé concerne la vignette et l'attestation tenant lieu des permis de conduire. Lancement officiel hier jeudi 18 novembre à Goma, dans le Nord Kivu, du plan stratégique quinquennal 2022-2026 de CARE International en RDC. Il s'agit d'un plan axé sur la lutte contre la pauvreté et les problèmes qui gangrènent la situation de la population dans les 5 provinces ciblées dont le Maniema, l'Ituri, les Kasai et les 2 Kivu. Pour Madame Aline Ouedraogo, directrice pays de CARE International, l'enveloppe globale est de plus de 87 millions de dollars américains pour les 5 ans. Ce projet va toucher plusieurs domaines, notamment le social, la santé, l'éducation, secteur économique, entre autres, et les activités génératrices des revenus pour les femmes vulnérables et les jeunes. Au regard de l'importance de ce plan, le vice-gouverneur qui a dirigé la cérémonie du lancement a aussi formulé quelques recommandations. Général Romé Ekuka Lipopo au micro de Mathieu Ilunga Chamboui.
À CARE International de respecter la programmation de sa stratégie 2022-2026 et la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Car il y a des partenaires qui annoncent, ils éructent un certain nombre de chiffres, mais à la fin, on n'atteint ni jamais ces chiffres, ni non plus le timing édicté. En termes de recommandations vis-à-vis de celles et ceux vers lesquels la stratégie de CARE International est lancée, il faut avoir des liens très très forts avec CARE International pour que cette vision nouvelle, que nous puissions garder une ligne correcte dans le pipeline, pour qu'à la fin, que nous puissions tout réaliser. Et à l'État, nous, le gouvernorat de province, nous allons tout faire pour encadrer CARE International ainsi que les acteurs sur terrain pour arriver aux problèmes spécifiques de la province du Nord Kivu. Car par an, nous aurons donc à 3 millions de dollars et nous voudrions réellement coller ça aux problèmes que nous avons, notamment les femmes délaissées, des familles monoparentales.
Deuxième titre de cette édition, Sud Kivu. Coup d'envoi ce vendredi de la deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19 à Bukavu. L'activité a eu lieu au centre de santé de la Botte dans la commune d'Ibanda. C'était en présence du vice-gouverneur de province et du ministre provincial de la Santé vacciné à l'occasion. Cette deuxième phase de vaccination est particulière. En effet, la population a désormais le choix entre plusieurs types de vaccins à part AstraZeneca. Écoutez Marc Malago Kachekere, vice-gouverneur du Sud Kivu, au micro de Cynthia Bachizi.
Nul ne doute des désastres que Covid cause sur la planète. Donc, parmi les solutions, il y a aussi la vaccination. En tant qu'autorité provinciale, nous sommes décidés de montrer l'exemple. Il est vrai que nous avons commencé, c'est depuis mai, je crois, qu'on avait commencé, mais suite à des problèmes techniques, on avait stoppé. Mais pour être plus direct, nous voulons dire à la population du Sud Kivu, en particulier de la RDC, d'aller se faire vacciner. C'est l'unique solution actuelle qui peut aider à endiguer cette maladie-là. Ce n'est pas à dire parce que moi j'ai reçu Johnson & Johnson que tout le monde doit le faire. J'ai vu des grands prendre Pfizer, il y a plusieurs vaccins, donc c'est un choix personnel. Mais les vaccins qui sont sur terrain sont efficaces. Donc le nom du vaccin, ce n'est pas vraiment l'essentiel, mais c'est le vaccin en soi qui aide à sauver les vies. Nous, nous sommes autorités, nous sommes en contact avec des milliers de personnes chaque jour. Donc je me sens que là, au moins, je ne suis plus un danger pour d'autres personnes. Et je vais demander à d'autres Congolais qui veulent protéger d'autres Congolais de faire le même exercice, de se faire vacciner.
Nous restons dans la même province pour parler de la célébration hier jeudi de la Journée mondiale de l'enfance à Uvira sous le thème « Un avenir meilleur pour chaque enfant ». L'activité a été organisée au camp des casquets bleus de Pakistan et de la MONUSCO en présence d'une trentaine d'élèves et enseignants représentant 26 écoles de la place. L'objectif, selon la section des affaires civiles de la MONUSCO, était de renforcer la confiance des civils à la suite de la montée du sentiment anti-MONUSCO, une situation en partie causée par les violences actuelles dans les moyens et au plateau. Pour en parler, Fiston Goma.
La population du secteur de Bomabungu dans le territoire de Mwanda tire la sonnette d'alarme contre une quelconque violation des limites du territoire de Mwanda par des agents de la division provinciale de l'urbanisme et de la circonscription foncière de Boma qui, selon les informations en notre possession, détiendrait des ordres de mission de son Excellence Monsieur le Gouverneur AI pour venir créer un lotissement dans le territoire de Mwanda. C'est là précisément au kilomètre 15 dans le secteur de Bomabungu. Et ils le font sans associer les techniciens de Mwanda en cette matière. Et là, la société civile s'inscrit en faux contre cette démarche. Parce que pour nous, ce sont des hommes mal intentionnés qui veulent induire son Excellence Monsieur le Gouverneur AI en erreur. Parce que dans leur plan, ils parlent d'un lotissement des sinistrés des dernières inondations de Boma. Peuvent-ils en ces jours nous montrer la liste de ces sinistrés et pourquoi seulement Mwanda qui doit donner de l'espace à ces sinistrés de Boma? Vu ce qui précède, nous pensons qu'il y a des agendas cachés dans cette affaire et la société civile voudrait en savoir plus. Parce que c'est un ancien dossier. Nous connaissons que ces dossiers datent du feu gouverneur Jacques Mbadou. Pourquoi ces histoires n'ont pas été faites et aujourd'hui, on veut arranger les sinistrés de Boma en leur donnant de l'espace à Mwanda sans nous associer.
Là, vous venez de suivre la situation qui se passe dans la province du Congo central avec cette société civile qui s'insurge contre ce qu'elle qualifie des violations des limites de leur entité par les agents de la division provinciale de l'urbanisme. Et sachez qu'à propos de cela, Madame le maire de la ville de Boma et le conservateur des titres immobiliers de cette ville ont déclaré que selon la loi foncière, les limites des circonscriptions foncières sont différentes des limites territoriales des entités territoriales. Donc le secteur de Bomabungu, bien que se trouvant dans le territoire de Mwanda, il est inclus dans la circonscription foncière de la ville de Boma suite à sa proximité de la dite ville. Passons à présent à autre nouvelle. Ici à Kinshasa, le directeur général de l'entreprise Kabong et fils, membre de la diaspora congolaise, demande au gouvernement de la RDC d'équiper matériellement la Société nationale d'électricité SNEL pour stabiliser l'énergie électrique et ainsi faciliter les investissements. Robert Kabongo a formulé ses demandes en marge du forum sur la diaspora qui s'est tenu ici à Kinshasa du 17 au 19 novembre. Kabong et fils est cette entreprise qui a mis sur le marché l'eau potable à les Linda. Robert Kabongo le dit à Paul Matendo.
Nous avons une ligne de moyenne tension à l'usine et pour faire entrer cette ligne-là, ça nous a pris pratiquement 8 mois. Ce qui n'est pas bon comme indice du développement ici au Congo, c'est parce que la SNEL n'a ni isolateur, ni câble de moyenne tension, ni transformateur. Et ça nous a pris du temps, il fallait aller appeler Afrique du Sud, appeler ici et là, pour pouvoir avoir certains matériaux. Et à votre surprise, on a eu la plupart des matériaux pour la moyenne tension, nous les avons obtenus dans le marché noir. je vous dirai pas toutes les sources, mais c'était tout dans le marché noir. L'État congolais ne vend ni câbles, ni transformateurs, aucun élément qui entre dans l'acquisition de l'énergie moyenne tension pour une industrie. Donc si nous voulons vraiment qu'il y ait des industries ici au pays, il faut que le gouvernement puisse y songer. Il doit équiper la SNEL de ces matériaux pour faciliter la tâche aux investisseurs qui viennent ici au Congo.
Actualité internationale.
La police ougandaise a annoncé avoir abattu 5 suspects et arrêté 21 personnes en lien avec le double attentat suicide revendiqué par l'État islamique. Jeudi, au cours d'une fusillade dans l'ouest du pays, des agents de la brigade antiterroriste ont tué 4 suspects en Toroko, d'où ils retournaient en RDC, a ainsi indiqué le porte-parole de la police. Un autre suspect a été abattu près de la capitale alors qu'il tentait d'échapper à son arrestation. Selon le porte-parole, il serait l'un des responsables du réveil des cellules terroristes à Kampala. Quant aux 21 personnes arrêtées, il s'agirait d'agents opérationnels, des coordinateurs et d'argentiers d'activistes terroristes. Et puis sachez que le président nigérien Muhammadu Buhari a reçu jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cette rencontre vise à redonner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays. Comme signe d'un rafraîchissement de leur coopération, le Nigeria a été retiré de la liste noire des pays violant la liberté de religion.
L'invité.
Notre invitée, c'est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui vient de clôturer mercredi une visite de travail à Kalemie. Bintou Keïta a conduit pendant 3 jours le leadership de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'entretien réalisé par François-Xavier Mibé.
Madame la représentante spéciale, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de clôturer aujourd'hui une mission qui vous a conduit au niveau du Tanganyika. Le bilan de cette visite de travail, madame?
Quand je pense au bilan de cette mission, je pense à un cri du gouverneur ad interim qui n'a cessé de répéter « Tanganyika, c'est une jeune province. Il y a du mieux en termes de sécurité, mais ce n'est pas encore stable. » Tanganyika, c'est des hommes et des femmes très déterminés à ce que la paix puisse être davantage consolidée. Mais en même temps, il y avait une forme de demande de quelqu'un, quelque part, a décidé que la MONUSCO allait partir du Tanganyika l'année prochaine, comme un sentiment, entre guillemets, je dirais, d'abandon, ou en tout cas de sevrage. Et ce sentiment montrer qu'il y a encore des aspects très particuliers, notamment sur la sécurité, qu'il faut, avec l'armée, avec la police congolaise, avec les autorités provinciales, et avec aussi les chefs de pays, s'assurer qu'on mutualise les efforts pour que les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants puisse se dire « il fait bon vivre au Tanganyika ». Mais le premier besoin essentiel que j'ai entendu des personnes déplacées, de la société civile, des jeunes, c'est sécurité, priorité numéro 1. Sécurité, priorité numéro 2. Sécurité, priorité numéro 3. Et ensuite, c'est « nous avons une terre Tanganyika qui a 6 territoires ». Il y a plein de potentiel et pour l'instant, c'est encore difficile de transformer ce potentiel en termes d'opportunités d'emploi. Et ça, c'est une demande importante, particulièrement des jeunes et particulièrement des femmes.
Non pas pour chercher à vous interrompre, madame. Des problèmes restent préoccupants du côté des déplacés, par exemple. Le nombre est en train de croître dans les secteurs de Kabeyamaï. Que va être l'apport de la communauté internationale et qu'est-ce qu'on peut bien attendre des autorités provinciales et territoriales?
Je crois la première des choses, c'est que même quand on pense qu'on n'a plus rien, on a toujours quelque chose, on a sa volonté, on a sa dignité et on a sa capacité de contribuer avec des idées, pas nécessairement toujours avec de l'argent. Et je pense que beaucoup est déjà fait par la famille des Nations Unies. Mais vu le nombre grandissant de personnes déplacées, là on parle de milliers de personnes déplacées. Nous avons même été sous une tente où il y avait, je crois, plus que 200, 300 femmes, enfants. Et ça, ce sont des personnes qui sont arrivées entre le 7 novembre et maintenant.
et de ce que je comprends, ça continue d'arriver. Les besoins sont très grands et personne tout seul, même pas l'autorité territoriale ou les chefs coutumiers ou même les agences des Nations Unies tout seul et la MONUSCO, pourra amplifier ce qui doit être fait pour que ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, ces bébés se sentent bien. Ça va prendre beaucoup d'efforts. Et peut-être moi, si j'ai un souhait, c'est que j'aimerais bien que les autorités à Kinshasa viennent au contact de ces populations qui sont en détresse et qui ont besoin d'être rassurées qu'on se préoccupe d'eux. Même si on n'a pas grand-chose, juste le fait de les écouter, de venir à leur contact, je pense que c'est déjà une partie du chemin.
Cela intervient au moment où la MONUSCO entrevoit le processus de désengagement de la province du Tanganyika. Est-ce comprendre que les choses vont devoir rester en laissant un goût de l'inachevé?
Alors c'est ça ce que j'appelais ne pas jouer au Cassandre. Tous les problèmes ne seront pas réglés en quelques mois. Par contre, le retrait de la MONUSCO, c'est une partie de la famille des Nations Unies. Les agences font les programmes, ils sont là, et ils vont rester, et ils vont continuer à accompagner la province de Tanganyika. Et aussi, de dire qu'il y aura de l'inachevé, c'est comme si on disait il faut que tous les problèmes soient réglés à 100% avant que la MONUSCO ne puisse se retirer. Et je ne crois pas que c'est la démarche et l'intention que nous devons avoir. Et c'est pour ça que j'ai dit priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3, c'est la sécurité. Les mamans et les jeunes nous ont dit, c'est si on a la sécurité, le reste peut venir de surcroît. Et j'ai bien dit, départ, si toutes les conditions sont réunies. Donc il y a des critères bien précis, dont la sécurité, pour la province de Tanganyika.
Madame la représentante spéciale, Bintou Keïta, merci.
Merci.